faisait des chocolats qui sont pour moi les meilleurs de France, voire du monde, mais j'ai pas tout goûté, donc voilà, je peux pas m'avancer. Quand on fait un métier créatif comme celui-là, on a besoin de se mesurer aux autres. Il faut instaurer une certaine rigueur et à la fois leur montrer qu'on les prend en considération. Souvent, j'ai du mal à mettre réellement des mots sur les émotions qui m'accompagnent, sur ce que je ressens. Et d'ailleurs, quand je crée un dessert, c'est très compliqué d'expliquer pourquoi et comment, parce que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi.
Chers insiders, c'est l'été, mais l'excellence de service ne prend pas de vacances. Et j'ai à cœur de continuer ce voyage, qui nous emporte vers des invités toujours plus inspirants. Connaissez-vous The Vendôme Company ? C'est le nouveau partenaire exclusif d'Hospitality Insiders. Vendôme, c'est d'abord un incubateur de talents, spécialisé dans le luxe, avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendôme, c'est surtout une entreprise dont je partage les valeurs humaines. J'ai d'ailleurs croisé leur chemin à de nombreuses reprises, et je vous les recommande vivement pour vous accompagner dans vos recrutements. Dites-leur que vous venez de ma part, et recrutez les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Elle est chef pâtissière, mais aussi entrepreneuse ainsi que youtubeuse. J'ai eu l'occasion de goûter certaines de ses créations, et croyez-moi, elle s'est régalée nos papilles. Aujourd'hui, ce sont nos oreilles qui vont être gâtées par cet entretien avec Muriel Aublet-Cuvelier.
Bonjour Maxime.
Bonjour Muriel, comment vas-tu ?
Ben, ça va très très bien, je suis enchantée de discuter avec toi, j'avais hâte.
Ouais, je suis ravie de t'avoir également. Et Muriel, j'ai l'impression que c'est encore la saison de la rhubarbe, en tout cas chez toi. Comment est-ce que tu préfères la cuisiner de ton côté ?
Ouais, c'est vrai, j'adore ça et c'est vrai que là j'ai mis un peu le paquet sur les recettes à la rhubarbe. Elle se mange crue et cuite, mais je crois que je la préfère en crumble. Je suis une fan en fait absolue de crumble, on en mangeait beaucoup quand j'étais petite, donc je crois que je la préfère en crumble.
J'ai vu tes dernières vidéos et notamment celle du crumble, ça donne vraiment envie, je vais m'y mettre très rapidement. Moi qui suis pas très pâtisserie, je pense que je vais devoir commencer.
C'est super simple en plus, tu me diras si tu l'as fait.
Oui, avec plaisir. On part directement dans le vif du sujet de la pâtisserie, mais est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu qui tu es et ton parcours jusqu'ici ?
Ouais, bien sûr. Bah, je suis Muriel Aublet-Cuvelier, comme tu l'as dit. Je suis née en Auvergne. Je pense que ça a un gros rapport avec ce que je fais aujourd'hui, parce que j'étais tout le temps en contact avec la nature et surtout j'ai une famille d'épicuriens, une grand-mère qui adorait faire le marché et qui était connue de tout le monde par son fort caractère, mais aussi par ses talents de cuisinière. Et donc c'est vrai qu'elle m'a pas mal éduquée aux produits, aux odeurs, à tout ça, donc à la saisonnalité aussi. Et j'ai un papa qui adore cuisiner également. Il cuisinait le week-end et on passait des heures à attendre que ça mijote dans les petits plats, mais ça valait le coup. Donc c'est comme ça que j'ai grandi. Et puis après, j'ai fait un lycée hôtelier à Chamalières.
On est sur un vrai parcours atypique d'hôtelière, là j'adore.
C'est ça, exactement. Et puis, j'ai fait des super stages dans des étoilés, j'ai adoré ça. Je m'organisais toujours, je m'arrangeais toujours pour être dans la pâtisserie, puisque normalement, j'étais censée faire cuisine, pâtisserie et service et ainsi de suite, même si j'en ai fait quand même un petit peu. Et puis, j'ai fait ma première année de BTS, option cuisine. Alors, faut savoir que j'ai eu mon bac avec mention très bien, donc tous mes professeurs étaient super contents. Et en fait, à la fin de mon stage de BTS, de mon premier stage de BTS, je leur ai dit que je voulais partir pour faire un CAP pâtissier. Donc, autant te dire que autant mes parents que les professeurs n'ont pas été super ravis de cette décision. Et puis, mes parents ont très rapidement compris que c'était vraiment vital pour moi d'aller toucher la matière, de passer ce CAP et de rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce qui me passionnait réellement. Donc, je les remercie beaucoup pour ça, mes grands-parents aussi. Après, les professeurs, ça a été plus compliqué. Il y en a certains qui n'ont pas du tout accepté. Et puis, il y a un professeur de pâtisserie qui n'était pas mon professeur, d'ailleurs, qui m'a complètement épaulée, complètement appuyée, qui s'appelle Monsieur Récassens. S'il m'entend aujourd'hui, je le remercie un million de fois.
Ah, j'espère qu'il écoutera.
Ouais, vraiment, parce que lui m'a écoutée, lui a compris cette envie, en fait, vital hein, de passer en pâtisserie réellement et concrètement. Et il m'a aidé à rentrer à l'ENSP, à l'École Nationale Supérieure de la Pâtisserie, à Yssingeaux, donc toujours en Auvergne. C'est une école qui est dirigée par Yves Turiès et Alain Ducasse. Donc c'est une très très belle école.
Je connaissais pas du tout.
Elle est vraiment au milieu de nulle part, hein, c'est à la campagne.
Sans faire des clichés, quand tu me parles d'Auvergne, j'imagine très bien le milieu de nulle part, de toute façon.
Oui, c'est ça. On a beaucoup, beaucoup de nature. Mais du coup, c'est génial parce qu'on a plein de super produits, plein de super agriculteurs, plein de coins ressourçants. Ça aide à la créativité, hein, mine de rien, je pense, en tout cas.
Oui, complètement.
Et donc, je suis partie là-bas. Ça a été génial. J'avais une classe avec des personnes qui se reconvertissaient aussi. J'étais celle qui connaissait le mieux le milieu, forcément, puisque j'avais mon bac technologique hôtellerie en poche et ma première année de BTS. Et j'avais un super professeur, Emmanuel Lyon, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, mais qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et puis surtout, en fait, on rencontrait beaucoup de personnes à l'ENSP parce qu'il y avait des stages professionnels avec des meilleurs ouvriers de France, avec des champions du monde. Et je dois dire que je suis rentrée un petit peu dans les petits papiers parce que à l'époque, je suis sortie avec un des assistants des stages professionnels. C'était un peu les petites souris du château. C'est vrai que bon, j'ai eu quelques portes ouvertes sur le milieu de la pâtisserie un peu plus élargie que mes camarades.
Tous les moyens sont bons.
C'est ça, exactement. Donc c'est vrai que j'ai passé des nuits blanches à le regarder faire des pièces en chocolat, à le regarder faire des chocolats ou des pâtisseries pour les buffets. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'était top. J'ai vraiment apprécié ce moment-là. Et il y avait beaucoup d'étrangers aussi qui venaient apprendre la pâtisserie dans cette école. Donc j'ai eu plein de copains aussi des quatre coins du monde et c'était vachement enrichissant. Donc vraiment une super super période. Et là, je suis donc sortie majeure de promo. J'ai eu donc mon CAP pâtissier. Et je suis partie, j'ai voulu faire de la chocolaterie. Donc, je suis partie faire un CAP chocolatier chez Christian Camprini, qui est un meilleur ouvrier de France chocolatier.
Tu as enchaîné pâtisserie puis chocolaterie.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça, parce qu'à l'époque, avant 2009, on pouvait passer un CAP pâtissier dans lequel il y avait de la confiserie et de la chocolaterie. Et c'était plus le cas à mon époque.
Oui.
Donc, j'ai voulu me perfectionner en chocolaterie. Pour dire vrai, j'ai commencé chez un autre chocolatier, chez qui j'ai appris vraiment les techniques ancestrales parce qu'on faisait les bonbons liqueurs. Donc, les bonbons liqueurs, faut s'imaginer un laboratoire entier dont tous les plans de travail sont recouverts d'amidon et on fait des empreintes avec des empreintes en silicone. Ronde, ovale, peu importe, et on coule dedans en fait un mélange de sirop et d'alcool, et on laisse cristalliser toute la nuit. Et en fait, c'est ça qui va donner les fameux bonbons liqueurs qu'on met de côté souvent quand on est enfant dans les paquets de chocolat.
Ah, c'est génial.
ça c'était fabuleux, vraiment, de voir ça, c'était top. Mais j'ai eu quelques petits j'ai eu quelques petits différends avec cette personne-là, donc je suis partie très rapidement chez Christian Camprini. Où là j'ai appris encore d'autres choses parce qu'en plus à l'époque on était dans son jardin, dans un laboratoire dans son jardin au milieu des oliviers et on n'avait que des produits exceptionnels. C'est là-bas que j'ai découvert d'ailleurs la noisette du Piémont, le citron de Menton. Il avait la verveine dans le jardin. On faisait des chocolats qui sont pour moi les meilleurs de France, voire du monde, mais j'ai pas tout goûté donc voilà, je peux pas m'avancer. Mais...
En tout cas, tu le racontes très bien. On a envie de te croire là.
Non, vraiment, c'était une super expérience également. Et puis, j'ai même participé à un concours d'ailleurs qui s'appelait le Festival des Croques en Bouche qui se passait à Yssingeaux. Et c'était donc en junior, on était en binôme. Et on a remporté le premier prix également et je m'y attendais pas du tout. Donc, j'étais très, très émue, sachant qu'en plus, mes parents et mes grands-parents étaient là. Donc, voilà, c'était avec Eric Rava. D'ailleurs, je le salue pareil parce que je sais que lui, il est parti loin en Nouvelle-Zélande. Mais c'était un super souvenir également.
Génial. Je vais avoir du monde à mettre en référence déjà tous les noms que tu viens de citer. Et juste avant Croque en Bouche, tu avais fait un autre concours au Salon du Chocolat, c'est ça, l'année d'avant?
Oui,
aussi
c'est ça. Alors, c'était au Puy-en-Velay l'année d'avant. Ah non, pardon, c'était à Sainte-Maxime. Sainte-Maxime, j'avais fait aussi un concours. Alors là, de mémoire, j'étais arrivée deuxième, je crois, et c'est l'autre où j'étais arrivée troisième.
D'accord. Je sais plus. Donc déjà, t'avais une passion, non pas seulement pour le produit, enfin le produit ça transpire beaucoup à travers ce que tu dis, que t'aimes vraiment la qualité, le terroir, mais il y avait aussi un petit peu ce goût de la compétition, du dépassement. Qu'est-ce qui te ouais. plaisait là-dedans?
Ouais, complètement. Je pense que quand on fait un métier créatif comme celui-là, on a besoin de se mesurer aux autres. J'ai toujours eu un petit peu l'esprit de compétition. Ça me permettait de me dépasser et puis de travailler, parce qu'en fait, les pièces artistiques, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de tests, d'essais, de loupés, de choses qu'on découvre. Moi, j'ai toujours aimé travailler le chocolat parce que c'est une matière qui est fascinante, parce que on peut la gratter, on peut la polir, on peut la faire briller, on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses, mais si on le fait pas avec nos mains, on n'apprend jamais, quoi. C'est pas les bouquins qui vont nous aider à faire une pièce en chocolat, quoi. Et puis j'avais la chance d'avoir Jean Lachenal, qui était donc mon compagnon à l'époque, qui était très doué en pièces artistiques, qui m'aidait. On passait des nuits blanches à faire des pièces en chocolat. et puis Christian Camprini qui nous donnait des conseils, Eric Rava pareil, mon binôme sur le concours, qui m'a aidé aussi pour le chocolat. Et c'est vrai que les concours, pour ça, c'est parfait, quoi. Ça nous aide et à évoluer sur le côté artistique qu'on fait pas forcément en entreprise, et à se mesurer un petit peu aux autres et à voir où est-ce qu'on en est, quoi, finalement.
Ouais, bien sûr. Non, mais complètement. C'est vraiment le meilleur moyen, je pense, de se dépasser, de se remettre en question et de se situer par rapport aux autres.
Ouais, complètement. D'ailleurs, c'était Julien Alvarez, je crois, qui disait, un concours, c'est bien de le gagner, mais on apprend plus quand on ne gagne pas, justement.
Ouais.
Qui disait souvent.
Ouais, complètement. Julien Alvarez, qu'on connaît tous les deux, qui est meilleur pâtissier monde, c'est ça, non, pour l'équipe d'Espagne.
Qui a gagné la Coupe du Monde de pâtisserie avec l'équipe de l'Espagne, exactement.
Il y a quelques années. Waouh, superbe. Là, on est encore que, je crois, en 2012 dans ton parcours, donc il faut encore que tu nous racontes quelques années jusqu'à maintenant.
C'est vrai, il s'est passé pas mal de choses. Et ben, en fait, j'ai été rappelée par mon professeur de pâtisserie à Issingeaux, justement pour être assistante des stages. Donc, autant te dire qu'assistante des stages, c'est une place qui est extrêmement prisée par beaucoup de monde. Parce que même si on n'est pas réellement rémunéré, on voit tous les stages professionnels. Donc, comme je disais, avec des meilleurs ouvriers de France, des champions du monde, rien que ça. On côtoie tous les professionnels qui viennent sur place. On a un énorme trousseau de clés qui m'a fait des trous d'ailleurs dans mes pantalons parce qu'ils passaient pas correctement. Et en fait, on a les clés de toute l'école. Donc, on est vraiment une petite souris. On a accès aux caves dans lesquelles il y a des journaux du pâtissier, qui datent d'il y a 20 ans, 30 ans. C'est assez exceptionnel. J'ai passé quelques nuits blanches là-bas.
Ça fait déjà beaucoup de nuits blanches, hein.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que si on veut réussir, effectivement, si on veut se documenter, si on veut progresser, souvent, il y a beaucoup de temps passé. Hein. On va pas se mentir. Et puis, on avait le droit d'utiliser la matière première, les laboratoires quand on voulait. Donc, c'est vrai que là, j'ai fait aussi un concours, effectivement, au Puy-en-Velay, avec d'autres assistants, toujours sur le chocolat. Très, très chouette. Et puis on pouvait s'entraîner sur tout ce qu'on voulait, quoi. Donc c'était super. Et puis de la même façon que ce que j'avais vécu quand j'étais élève, j'ai rencontré énormément d'étrangers aussi, et ça c'était chouette, quoi. J'adore ça. Ils nous racontaient plein de choses, ils nous ramenaient aussi un peu leur spécialité de chez eux, donc c'est formidable, quoi.
Ah, bien sûr, l'expérience, c'est aussi les rencontres qu'on fait au milieu du chemin, hein, complètement.
C'est ça.
Ah, génial. Et alors, donc tu as passé combien de temps là-bas et qu'est-ce qui t'amène à l'entreprise suivante? Voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses que j'ai envie de découvrir et de discuter avec toi de ton parcours là.
C'est vrai. Alors, j'étais partie pour faire un an et puis finalement, j'en ai fait un petit peu moins parce que j'ai mon ex-compagnon donc qui a été appelé pour travailler à Montréal, au Québec donc. À l'Européa, et il m'a demandé, voilà, est-ce que ça te tente l'aventure? Donc moi, j'avais très envie de partir à l'étranger. À l'époque, je voulais aller en Australie, je me souviens. J'avais mis de l'argent de côté pour l'Australie, puis je me suis dit, bon, ben, partons de l'autre côté, allons-y. Et donc là, ben, grâce au réseau que je m'étais fait, en fait, avec à l'ENSP, puis ailleurs, le travail que j'avais fourni, ainsi de suite, j'ai trouvé très rapidement une place de chef pâtissière dans un restaurant sur le Vieux-Port qui s'appelle l'Auberge Saint-Gabriel, qui était un restaurant semi-gastronomique assez étonnant parce que la décoration est très particulière.
Okay.
Et donc, en fait, c'était ma première place de chef. Donc, je dois t'avouer que j'étais extrêmement stressée avant d'arriver.
Ouais. En plus, dans un autre pays, avec une autre culture, ça doit être quelque chose quand même.
Ouais, complètement. Ouais, c'est très déstabilisant, mais par contre, j'avais une motivation de faire, quoi. J'étais extrêmement préparée, j'avais tout un carnet avec mes recettes, ce que je voulais faire, et ainsi de suite. Ça a été une expérience particulière parce que tout s'est pas vraiment passé comme je l'imaginais. Déjà, quand je suis arrivée, en fait, le chef qui était en place à l'époque n'avait pas prévenu les deux pâtissières qui étaient sur place que je prenais la place de chef. Et ces deux jeunes pâtissières avaient mon âge. J'avais 23 ans, je crois, à l'époque, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est assez jeune. Et ces deux pâtissières travaillaient déjà sur place. Donc, ça a été assez compliqué au début. Et puis, finalement, j'ai commencé à faire ma place. Les deux pâtissières en question sont parties. J'ai pu recruter des gens moi-même. Et j'ai développé un lien très particulier professionnellement avec le patron de l'Auberge Saint-Gabriel, qui était suisse, Marc Bollet. Et avec qui je discutais pendant des heures dans le bureau, je faisais goûter tout ce que je faisais, tout ça, on en parlait beaucoup, et c'était très enrichissant pour moi, j'ai beaucoup aimé. Et en plus de ça, ce qui était assez rigolo, c'est qu'il y avait deux autres gérants de l'Auberge Saint-Gabriel, il y avait Guy Laliberté, le patron du Cirque du Soleil, et le troisième, c'était Garou, le chanteur.
Incroyable.
Donc bon, forcément, moi, je suis des années 90, voilà, Garou, c'est quelque chose, quoi, c'est Notre-Dame.
Complètement.
Donc, c'était assez rigolo, je le croisais dans les couloirs des fois, je me souviens, j'ai fait un selfie avec lui qui est horrible, d'ailleurs, parce qu'il est tout flou et j'avais un espèce de filet sur la tête, enfin bref, c'est...
Quand même, ça c'est quelque chose que tu pourras montrer plus tard fièrement.
C'est ça. Mais c'est vrai que c'était assez rigolo. C'était très particulier parce que les produits aussi à Montréal sont totalement différents. Au Québec, de façon générale, puisque le climat est très très froid une grosse partie de l'année et très chaude en été. Donc, on a des produits laitiers qui sont gorgés d'eau, qui sont pas du tout les mêmes qu'en France. Donc, d'accord. J'ai dû revoir toutes mes recettes, en fait. J'ai dû les rééquilibrer, mais c'était extrêmement intéressant de le faire, même si au début, c'était pas simple. Et pareil pour les fruits, ils sont très peu mûrs, donc il fallait que je les fasse venir avant en entreprise pour les faire mûrir dans l'entreprise. En
fait. C'est génial, c'est le genre de détails auxquels on penserait pas du tout. Et quand tu le dis, ça paraît complètement évident, mais l'histoire du lait, j'aurais absolument jamais pensé.
Ouais, si, c'était pas simple. Par contre, j'ai découvert le cidre de glace, et alors ça, j'en garde un souvenir absolument incroyable. Et d'ailleurs, je ferai bien des pâtisseries avec parce que c'est délicieux.
Cidre de glace, je le note pour mon prochain voyage au Québec.
Oui, avec plaisir. Et d'ailleurs, il faut prendre celui qui est élevé en fût de chêne, hein, très important.
Ok. Très bien, génial. Tu passes combien de temps là-bas parce que avant de revenir en France, où il y a une autre destination au milieu que j'ai ratée?
Non, c'est ça, un an et demi. J'ai passé un an et demi là-bas. Je suis repassée juste par le Mexique entre les deux pour partir un peu en vacances et tout ça, donc c'est sympa.
Ça fait quand même un sacré détour, hein, le Québec-Mexique.
C'est ça. Et donc effectivement, alors moi j'avais très envie de rentrer en France, hein, pour être honnête. Je pense que ma famille me manquait, la gastronomie me manquait et la France tout simplement, je crois. J'étais un peu en manque de mon pays. Et donc j'ai souhaité rentrer, Jean aussi, et puis donc lui a trouvé du travail à Paris, et donc moi je me suis dit bon ben de toute façon je me suis toujours dit que Paris était un incontournable dans mon parcours, donc pourquoi pas maintenant. Quand je suis arrivée, donc c'était il y a 8 ans maintenant, j'avais dit que je resterais un an. Ça fait 8 ans que j'y suis.
J'ai dit pareil.
C'est fou, hein, comme Paris nous inspire,
ouais,
finalement.
Absolument, oui. Et puis je pense que c'est un vrai tremplin de carrière aussi, donc ça se justifie et on s'y ennuie pas. Même si il y a des points qui sont souvent critiqués, mais en tout cas, il y a aussi des belles qualités qu'on oublie parfois.
Ah bah c'est sûr, il y a plein d'opportunités. Hein. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités à chaque coin de rue, en fait, à Paris. Donc ça peut nous aspirer assez vite. Et donc là, j'ai commencé chez Des Gâteaux et du Pain. C'est une pâtisserie fine très réputée à Paris. On travaillait qu'avec des fruits de saison, fruits frais et ainsi de suite. Donc vraiment très chouette au niveau apprentissage. Après, je vais pas te cacher que ça a été l'entreprise la plus compliquée pour moi et pour beaucoup de mes collègues, de mes anciens collègues. Je vais pas m'épancher beaucoup sur la question parce que j'aime pas faire ça, mais ça a été enrichissant sur le plan professionnel, mais pas du tout humain. Donc je suis partie au bout de 6 mois. Et là, en fait, j'ai été invitée, en fait, à Yssingeau, je me souviens, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai été invitée à assister au meilleur ouvrier de France chocolatier, à l'UNSP. Et là, j'ai recroisé Lilian Bonnefoy, qui est un chef pâtissier de Palace, à Antibes, au Cap Eden Rock.
D'accord.
Et je lui ai dit que je cherchais une place à Paris. Et là, il m'a dit tout de suite, oh, mais attends, il y a Julien Alvarez qui est génial, c'est un super copain, il faut absolument que tu ailles là-bas, tu vas adorer, tout ça. Et donc, forcément, il m'a vendu le truc, j'ai dit, ah ouais, ok, ça a l'air génial, il faut absolument que j'y aille. Et puis, donc, je les ai contactés, Julien Alvarez m'a répondu, et en fait, à l'époque, ils avaient il leur restait une place de commis, au Péninsula. Et donc là, j'ai dit, pas de problème, je peux rentrer en tant que commis, ça me va très bien. Et c'était effectivement très bien parce que, mine de rien, rentrer en tant que commis, même si on a un bagage derrière, même si on a déjà été chef dans un établissement, parce que j'étais quand même très jeune à l'époque, ça m'a permis de vraiment réapprendre encore plus facilement et rapidement parce qu'on n'a pas de statut, en fait, entre guillemets. Ouais. Donc, on se tait, on écoute, on apprend, on exécute et après, on monte petit à petit. Et je dois dire que le Péninsula, ça a vraiment, avec Julien Alvarez, ça a vraiment été ma meilleure expérience humaine et professionnelle de toute ma carrière. Il a un don pour manager, pour fédérer ses équipes et il a un talent fou en pâtisserie. Et à l'époque, il avait comme sous-chef Jimmy Mornay et en fait, il faisait un duo assez bien trouvé, je trouvais, ouais, finalement. C'était assez parfait. Et puis, j'avais une super équipe, quoi. On était une quinzaine au Péninsula et c'était fabuleux, quoi. Je me souviens, le matin, j'arrivais avant. Le soir, je repartais après.
Tu faisais beaucoup d'heures, d'ailleurs, si je puis me permettre.
Comment?
Parce que tu faisais beaucoup d'heures, d'ailleurs, si je me souviens bien, parce que c'est à l'époque où on s'est rencontrés dans les couloirs du Péninsula. Et,
oui.
Et en effet, les journées avaient un début, mais on savait vraiment pas vraiment quand est-ce qu'elles terminaient.
Ouais, exactement. Et encore, là, c'était sur la fin quand on s'est rencontrés. Mmh. Et c'était encore différent parce que Julien Alvarez, justement, était plus là.
Oui.
Et donc, c'était une autre ambiance. Mais c'est vrai que quand Julien Alvarez était là, en plus, j'avais aidé un de mes camarades sur un concours qui est le Pascal Café, qui est un gros, gros concours de chocolaterie très réputé. Donc là, c'est vrai que bon, là, je faisais encore des nuits blanches. Mais bon, tout était voulu, hein, donc.
Oui, bien sûr.
Donc voilà, mais c'était génial. J'ai vraiment aimé cette période-là et en plus Julien Alvarez nous impliquait beaucoup dans le travail au Péninsula. Il y a un dessert qui a été mis à la carte du lobby, qui était donc la brasserie du Péninsula. Enfin, tu le sais, mais
oui.
Voilà. Et il nous demandait souvent, voilà, de tester des recettes, de lui proposer des choses et ainsi de suite. Donc, il nous impliquait beaucoup dans l'entreprise. C'était très important. Et puis, même quand il partait, voilà, moi, je me souviens d'avoir été faire une radio avec lui, RTL. Et je savais qu'il avait pas besoin de ma présence. Je savais que c'était juste pour me dire merci, quoi, quelque part.
Oui.
Et ça, c'est génial. C'est génial.
On comprend bien à travers toutes les expériences que tu racontes à quel point l'humain est important, le management, et qu'en fait c'est ça qui a fait que tu as pu partir plus ou moins rapidement d'une entreprise ou au contraire y rester, et que c'est ça qui te drive finalement. Et alors comment est-ce que toi, qu'est-ce que tu retiens plutôt d'un management comme Julien Alvarez que toi tu utilises aujourd'hui en tant que manager, on y viendra après, mais entre-temps, tu n'es pas resté commis pendant toutes ces années, tu as repris ta place de chef pâtissière et compagnie, mais qu'est-ce que tu tires de ces années à observer du management, et toi, qu'est-ce que tu appliques aujourd'hui en tant que manager, leader, chef?
En fait, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a des êtres humains en face de soi, des êtres humains qui ont une vie à côté aussi, et qui sont de façon générale, normalement, quand ils sont dans nos laboratoires, passionnés par ce métier. Donc il faut les accompagner avec nous, leur faire découvrir notre univers, notre façon de voir le métier. Mais à la fois, il faut pas non plus, laisser trop de lest parce que comme tout être humain, on prend nos aises, quoi. Hein, c'est normal. Donc il faut instaurer une certaine rigueur et à la fois leur montrer qu'on les prend en considération, ce qui est normal. Et je pense que ça passe par beaucoup de communication. Et c'était vraiment le fort de Julien Alvarez, c'est que dès qu'il y avait un problème, quelque chose, un conflit ou quelque chose à régler, à remettre en place, en ordre, il nous arrêtait et il nous disait « hop, on part en réunion ». On faisait une réunion de 10 minutes, 20 minutes, mais les choses étaient dites et puis on repartait, quoi. Et c'était parfait. Et même moi, je me suis dit plusieurs fois « oui, c'est vrai qu'il a eu raison de faire cette réunion-là parce que là, je commençais à dériver, quoi ». Donc, ouais, je pense que c'était ça.
Ouais, capable de bien partager les objectifs aussi à l'équipe et d'impliquer tout le monde dans une vision, dans un mouvement finalement.
Ouais, c'est ça, complètement.
Ah, génial. Et alors, raconte-nous un petit peu la fin et la suite du Peninsula Paris, parce que on va dire que tout ça n'était encore qu'une amuse-bouche par rapport à la suite de ton évolution. C'est ma partie préférée là qui arrive.
C'est vrai. Et ben donc Julien Alvarez est parti. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me souviens encore, on était en chocolaterie quand il nous l'a dit. Et c'est vrai que pour moi, de façon assez personnelle, il y a eu une sorte de dégringolade au niveau de mon bien-être en entreprise, en tout cas, et de ma motivation, parce que malheureusement beaucoup de mes collègues sont partis. Il y a un nouveau chef qui est arrivé. Ça a été très compliqué, il est parti en arrêt maladie très rapidement, il y a eu d'autres collègues qui n'avaient pas du tout la même mentalité finalement, et que je trouvais ça très désolant, parce qu'effectivement, tu l'as compris, l'humain pour moi c'est très important.
Oui.
Et ça m'a tristé beaucoup, et en fait ça m'a atteint très vite. J'ai eu, donc effectivement à cette époque-là, j'étais devenue chef de parti. J'avais beaucoup de responsabilités, ce qui me dérangeait absolument pas, hein, mais effectivement je faisais beaucoup d'heures. Et là j'avais moins cette envie, cet esprit là parce que personne ne m'emportait ou me donnait envie de venir le matin, quoi. Et à part mes quelques collègues des autres services. Et effectivement c'est à ce moment là qu'on s'est rencontrés, parce que je me souviens très bien, en fait on devait faire des bonds de taxi pour rentrer le soir, et c'est vrai qu'on finissait très tard.
Oui.
Et comme tu étais de nuit, c'était toi qui devais nous signer.
Oui, j'étais directeur de nuit à l'époque. Ça me replonge dans des sacrés souvenirs, des bons souvenirs, mais là aussi, ouais. En termes de longues heures de travail et d'horaires décalés,
ouais.
J'avais donné à cette époque, oui, complètement, je m'en souviens très bien.
Ah ouais, complètement. C'est fascinant, hein, parce que travailler de nuit, c'est pas simple. Et donc, c'est vrai que, on a très vite sympathisé, en fait, et c'était vachement agréable. C'était un peu, justement, la soupape à la fin de la journée. Je me disais, oh, chouette, on va discuter un peu avec Maxime.
Lui faire signer les bons pour pouvoir prendre un taxi et rentrer à la maison dormir un peu.
C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'était chouette. À l'époque, je travaillais souvent avec Élise Malo, d'ailleurs. Je sais pas si tu te souviens.
Oui. Ben, moi surtout, ce dont je me souviens de cette époque, et ça ressort aujourd'hui à travers ce que tu dis, ça ressort dans ton contenu, dans toutes tes interventions, c'est toujours ce sourire, cette énergie, cette passion que tu mets dans tout ce que tu fais. C'est très rafraîchissant et ça donne envie de te suivre, en fait. Tu parlais du management, Julien Alvarez, qui a énormément d'autres qualités, mais moi, pour moi, un profil comme Muriel, ça donne envie de te suivre parce que ça pétille, parce que il y a de la créativité, parce qu'on sent toute ton énergie derrière, et ça c'est complètement communicatif et très très agréable pour les gens qui travaillent et qui vivent auprès de toi d'ailleurs.
Ben merci, ben j'espère garder ça très longtemps, et je fais en sorte de garder cette énergie là qui effectivement mais vitale et nécessaire dans tous mes projets.
Ouais, complètement. Bon, alors, vas-y, raconte-nous ce projet que tu as lancé depuis quelques temps. En fait, je suis revenu vers toi, parce qu'après le Peninsula, on s'est jamais complètement perdu vue, mais je sais que tu as fait mûrir doucement un projet qui maintenant commence à être grand. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il est?
Ouais, bah, il y a eu un tremplin quand même, je suis obligée d'en parler. Je sais que c'est long, mais...
Au contraire, vas-y.
J'ai été rappelée par une ancienne collègue qui m'a dit « Oui, je vais faire le meilleur pâtissier des professionnels, il nous manque quelqu'un, est-ce que ça te dit de le faire ?» Alors à l'époque, j'étais dans mon lit, je m'en souviens, il devait être minuit, un truc comme ça, ou 23h, et je me suis dit « Non, mais moi je veux pas faire de télé, c'est pas pour moi. » Puis j'étais un peu un peu déprimée et un peu fatiguée à l'époque. Mmh. Et puis, au bout d'une heure, je me suis dit, en fait, si j'ai besoin de challenge, j'ai besoin d'une aventure, j'ai besoin de quelque chose, allez, c'est parti. Je lui ai renvoyé un message, je lui ai dit, en fait, si c'est bon, j'arrive, quoi. Et donc, elle était super contente. Et effectivement, donc j'ai participé aux meilleurs pâtissiers, les professionnels, en 2017. C'était la première saison professionnelle qu'ils faisaient.
Ouais, dingue. Quel tremplin.
Ah, c'était fabuleux. Hein. C'était vraiment fabuleux. Et donc, effectivement, on est arrivé en finale. On n'a pas gagné, mais ça a été tellement une expérience enrichissante. J'ai rencontré que des personnes incroyables, qui sont d'ailleurs des amis encore aujourd'hui. Et j'en ai même un, c'est un de mes meilleurs amis. Enfin, c'est fabuleux. Et il y avait une entraide, en fait, entre les professionnels, et j'ai trouvé ça très beau, en fait. On était triste quand quelqu'un faisait tomber quelque chose, quand il avait une mauvaise critique, alors que c'était nos concurrents, en fait, finalement. Mais mais effectivement, ça, c'était chouette. Et puis, on avait quand même comme juré Philippe Conticini, Pierre Hermé, Frédéric Beau, qui est un peu moins connu du grand public, mais qui s'occupe de la recherche et développement chez Valrhona.
Ouais, c'est que des grands noms pour ceux qui sont moins informés au monde de la pâtisserie. C'est des très très grands noms que tu nous partages là, et Philippe Conticini notamment. Je sais que t'as beaucoup travaillé avec lui. Waouh, ça devait être quelque chose, je pense, de travailler avec des professionnels comme lui.
Ouais, complètement. Et puis d'être critiqué par eux. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme un concours professionnel au-delà des caméras. C'était, pour moi, c'était, voilà, encore une fois, se dépasser, voir où est-ce que j'en étais, les idées que j'avais proposées, qu'est-ce que finalement il leur sortait, parce qu'il y avait que moi qui le savais quelque part, ça, puisqu'on était trois à travailler ensemble, et c'était génial. En fait, finalement, j'ai adoré. Et donc, je suis partie du Péninsula, effectivement, un petit peu avant la diffusion de l'émission. Je suis partie d'ailleurs 3 semaines au Sri Lanka pour me ressourcer. J'ai fait une cure ayurvédique, c'était très sympa, ça m'a fait beaucoup de bien.
C'est un bon moyen aussi, ça aussi je le mettrai en référence.
Ouais.
De développement personnel et de soins.
Complètement, non mais c'est vrai, c'était génial, j'avais 2 heures de massage par jour, enfin c'était super. Non, ça m'a fait beaucoup de bien, et en fait je suis rentrée pile poil au moment de la diffusion de l'émission, et alors là j'ai eu une vague d'amour de ma famille, de mes amis, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, enfin c'était mon heure de gloire. Ouais.
Ce qui a dû te faire du bien après les mois que tu devais passer, que tu venais de passer, qui professionnellement étaient très compliqués, ça devait être un sacré changement, j'imagine.
Ouais, complètement, ouais, ça m'a donné beaucoup de force, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'avais postulé au Crillon et que je me suis rendu compte que je voulais pas y aller. Et je me suis dit, ben mince, qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que je postule quelque part et que je me dis, ben non, en fait, j'ai pas envie d'y aller. Et donc là, en fait, j'ai senti cette cassure qui s'est passée. C'est très personnel, encore une fois, hein, mais ce côté, j'ai plus envie d'aller travailler en palace. J'ai plus envie d'être confrontée à des mentalités auxquelles j'ai été confrontée avant et qui m'ont fait finalement du mal. Et j'ai envie de faire mon projet à moi, mais je sais pas ce que je vais faire. Et alors là, si je peux me permettre une petite anecdote, parce que je la trouve quand même assez rigolote à chaque fois. J'ai été chez ma coiffeuse. Il faut savoir que je vais très rarement chez le coiffeur. Je pense que là, ça fait au moins 1 an que mes cheveux n'ont pas vu un coiffeur. Les pauvres. Et ma coiffeuse, Sarah, me dit... Ah, c'est génial, je t'ai vu à la télé, c'était super, super énergie, mais pourquoi est-ce que tu surfes pas sur la vague? Pourquoi est-ce que tu te lances pas sur YouTube? Ça marche hyper bien en ce moment et tout ça. Puis là, je l'ai regardé avec des yeux ronds et je dis quoi? J'ai dit moi sur YouTube? Je dis mais je suis même pas sur Instagram, parce que je venais de me mettre sur Instagram parce qu'on l'avait dit pour l'émission. Et Facebook, j'ai été une des dernières de mes copains à être dessus. Enfin bref, les réseaux sociaux et moi, ça faisait deux, quoi. Et puis, elle me dit, ah, mais si, ce serait génial. Et une heure après, je rentre chez moi. Et là, je me dis, mais est-ce qu'elle, finalement, elle aurait pas pointé du doigt une solution à mon problème et effectivement, quelque chose qui allierait mon tempérament avec ma passion, finalement, mon métier et mon savoir-faire. Et j'ai commencé à en parler autour de moi et j'ai plutôt eu des réponses positives. Je m'attendais pas du tout à ça parce que, en tant que professionnelle, tu vas sur YouTube, c'est un peu... c'est pas très, comment dire, c'est pas très sérieux, quoi. C'est vu d'un œil assez
particulier. Il y a un côté très divertissement, et on est loin du pro. En tout cas, on l'était peut-être à l'époque. Maintenant, je trouve que la vision a un peu changé, mais je vois très bien ce que tu veux dire,
Ouais, c'est ça. Et puis finalement, à ce moment-là, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Et j'ai mon savoir-faire, j'ai travaillé pour, j'ai donné beaucoup. En fait, je fais ce que je veux, quoi. Et je me suis dit, arrête de regarder autour de toi si les gens sont d'accord ou pas d'accord avec tes choix. Ça sert à rien. Ils seront pas là quand on aura 70 et que tu regarderas derrière tout ce que t'as fait. Donc finalement, je me suis dit, allez, je me lance. Et là, je me suis dit, ok, mais je commence par où? Parce que moi, j'y connais absolument rien. Je savais même pas qu'on pouvait s'abonner sur YouTube, quoi. Donc en fait, je me souvenais que j'avais une copine que j'avais rencontrée un an avant, avec qui j'avais discuté pendant une heure au bar. Plus personne n'existait, d'ailleurs. On avait vachement sympathisé. Et puis, on s'était dit qu'on se reverrait. Puis, la vie a fait qu'on s'est pas revus. Et je me souvenais qu'elle travaillait dans une agence publicitaire. Elle me s'est dit, tiens, elle pourra peut-être m'aider et me donner des conseils. Donc, je l'ai appelée. Et là, elle m'a dit, oh, bah, ça tombe bien, je fais une petite soirée la semaine prochaine, passe, tout ça. Et en fait, on en discute. Et elle me dit, écoute, Muriel, moi, j'ai besoin d'images pour mon agence. Donc, si tu veux, cet été, on fait rien. Je prends toute mon équipe avec moi et on te fait tes 8 premières vidéos. Oh. Donc, je m'attendais pas autant.
Dingue.
Donc, opportunité de dingue. Effectivement, je les ai faites avec eux. C'était génial. Ça m'a permis de me rendre compte si j'étais à l'aise devant une caméra, si j'arrivais à faire quelque chose, si ça me plaisait. J'ai passé 3 jours absolument exceptionnels avec eux. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée finalement et que j'ai su un petit peu ce que je devais faire pour faire des vidéos, quoi.
C'est incroyable.
Ouais, ça, c'était fou. C'était vraiment fou. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis après j'ai une copine qui m'a prêté sa petite caméra Casio, tu sais les caméras Casio que nos papas avaient, quoi, tu vois, ouais, pour nous filmer à Noël, quoi.
D'accord. Et tu filmais avec ça?
Ouais, je filmais avec ça. J'étais sur des cartons. À l'époque, je bossais de temps en temps à l'atelier des chefs et ils m'avaient prêté la cuisine pour faire mes vidéos. J'avais pas de micro. Je savais pas absolument pas mettre de fond de teint. Alors du coup, faut regarder les vidéos. C'est hyper drôle. Je suis jaune. c'est vraiment drôle. Quand je les regarde, je me dis ah ouais quand même. Et c'est moi qui les ai montées en plus. Je me dis mais j'avais pas honte quand même. Et donc effectivement j'ai appris le montage et puis de rencontre en rencontre, en fait à cette époque-là j'ai rencontré un nombre de gens incroyables, absolument c'était mirobolant et c'était j'arrivais pas à y croire en fait moi-même parce qu'à chaque fois que j'avais besoin d'un coup de pouce, besoin d'aide, besoin de quelque chose, je sais pas, pour que ça avance, et ben il y avait quelqu'un qui arrivait sur ma route en fait et ça c'était juste magique, c'était j'en ai encore des frissons quand j'en parle parce que ça me procurait tellement de joie et de bonheur et enfin c'était fou en fait, je comprenais pas mais je fonçais, j'avançais et je me suis dit punaise, j'ai eu raison de le faire, j'ai eu raison de pas avoir peur et on verra ce qui va se passer mais allons-y quoi.
Ouais, et donc à cette époque tu ne travaillais plus, c'est-à-dire que tu étais au chômage après le Peninsula j'imagine et tu t'es complètement lancé dans ce projet entrepreneurial qui était la chaîne YouTube, donc qui s'appelle les Secrets de Muriel, hein, c'est ça?
C'est ça, exactement. Et c'était pire que ça, d'ailleurs, parce que j'étais partie, donc j'avais démissionné, parce que moi, toutes les questions de rupture à l'amiable, de machin, de ceci, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis penchée, en fait, parce que quand on est dans le métier, souvent, on travaille, on apprend le respect, le devoir qu'on a envers notre patron, mais pas vraiment...
Pas vraiment le légal, oui, c'est...
Voilà. Mais je dois dire que en fait, ça a été une force. Parce que effectivement, j'ai été au chômage, voir si j'avais le droit à quelque chose. Je me suis rendu compte que j'avais le droit à rien, alors que ça faisait plus de 10 ans que je travaillais. Donc c'est sûr que bon, ça fout un peu les boules. Mais d'un côté, ça m'a aussi donné l'impulsion de me donner encore plus les moyens de travailler, de faire quelque chose, de me donner à fond pour que je puisse quand même payer mon loyer. Et en fait, grâce à ça, j'ai rencontré encore plus de personnes. J'ai travaillé, donc j'ai forcément appris des choses aussi. Et en fait, ben ça fait tout. Finalement, ça fait tout l'univers que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à ça, quoi.
Et puis c'est vraiment quand on est au pied du mur qu'on va chercher toutes les ressources en soi pour avancer dans un projet.
Ouais, c'est ça, exactement. Bon, alors, je vais pas te mentir, hein, j'ai mangé des patates, je sortais plus, ou alors j'avais quelques copains qui comprenaient un peu la situation et qui m'invitaient à boire une bière en me disant, oh, mais c'est, je t'invite et tout, ça me fait plaisir. Que je remercie d'ailleurs parce qu'ils m'ont, à aucun moment, ils m'ont fait sentir qu'effectivement, bon, ben, j'avais plus un rond et que,
ouais,
et que c'était n'importe quoi.
Parce qu'en effet, YouTube, surtout dans les débuts, ça, ouais. Ça paye pas ou peu, quoi.
Ah non, mais c'est clair, c'est pas l'Eldorado, faut pas croire, et il faut beaucoup de travail pour que ça le devienne, et même encore aujourd'hui, c'est pas suffisant pour moi, par exemple.
Et justement, alors, comment est-ce qu'on passe de quelques vidéos, on comprend que tu fais 8 vidéos à un lancement, à une chaîne qui fonctionne bien, enfin, juste quelques chiffres qui parlent, tu as quoi, t'as 77 000 abonnés, je crois, à l'heure actuelle, quasiment?
Je crois, ouais, je crois que j'en suis à peu près à ça, effectivement.
Donc, pour quelqu'un qui vient de la pâtisserie, c'est pas non plus, je sais pas si c'est les chaînes les plus suivies, mais il me semble pas. Ok, t'as fait meilleur pâtissier professionnel, qui a été, j'ai l'impression, un grand tremplin. Mais comment est-ce qu'on se retrouve à lancer une chaîne vidéo YouTube en partant de rien et arriver à 77 000 abonnés et aujourd'hui avoir un projet autour de ça et réussir à en vivre, si tu arrives à en vivre?
Eh ben, je crois que mon plus gros défaut a été ma plus grosse force à ce moment-là, c'est que je disais jamais non. Et donc, en fait, j'ai fait énormément de choses. J'ai eu des opportunités. Après, ça a été beaucoup de recherches aussi, hein, forcément. Je me suis renseignée sur YouTube de comment est-ce qu'on lançait une chaîne YouTube.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on devait faire et ainsi de suite. Les analytics dont je ne comprends pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais que je maîtrise un peu plus qu'avant. Et puis, il y a ce truc qui nous maintient de nous dire, bon, à partir de 1000 abonnés, on peut commencer à être monétisé et on peut commencer à avoir accès au YouTube Space. Et ça, c'était un peu mon but. Donc, on pose beaucoup de questions. Finalement, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai posé beaucoup de questions. J'ai fait des vidéos, j'ai travaillé à droite et à gauche. J'ai plein de carnets, en fait, écrits avec plein d'idées, plein de choses. Il faudrait que je me replonge dedans. Je pense que j'aurais peut-être des idées qui ressurgiraient pour ma chaîne aujourd'hui. Et puis, je crois que c'est à Noël, Noël 2017, du coup, si je dis pas de bêtises. Donc, ça faisait 3 mois que j'avais lancé ma chaîne YouTube. Faut dire que j'ai été extrêmement épaulée par mes amis, hein, aussi, et ma famille, qui ont été d'un soutien psychologique assez énorme. Donc ça, je les remercie vraiment tous parce qu'ils m'ont tous donné beaucoup de force. Et à Noël, en fait, j'avais contacté un YouTuber qui s'appelle Link the Sun. C'est mon frère qui m'avait conseillé de le faire, si je dis pas de bêtises. Il m'avait dit, oh, il répond souvent aux gens, il est hyper sympa et tout. Et je lui avais posé des questions et effectivement, il m'avait répondu hyper gentiment. Donc vraiment sympa, le gars. Et en fait, à Noël, il a décidé de faire une vidéo avec les 20 chaînes à suivre, les 20 petites chaînes à suivre. Voilà, et en fait, je savais pas, mais je me suis retrouvée dans ça, et c'est un gars qui a je sais plus combien de millions d'abonnés, hein. Enfin, c'est pas un petit YouTuber, quoi.
D'accord.
Et en fait, c'était très drôle, parce que j'avais demandé dans ma dernière vidéo, j'avais dit, bon, pour Noël, mon meilleur cadeau de Noël, ce serait d'avoir 1000 abonnés. J'en avais 500, donc je savais que c'était impossible, mais c'est pas grave, et en fait... Ce qui est très drôle, c'est que du coup, cette vidéo a été publiée le 24. Et le 25 au matin, j'avais mes 1000 abonnés.
Mais non. Ah, c'est... Si. Elle est géniale, cette anecdote. Là, tu vois, la loi de l'attraction. Pensez très très fort à un cadeau pour Noël. Tout arrive.
C'était fou. C'était absolument fou. Je me souviens d'ailleurs qu'on avait fait avec mes cousines, on avait marqué 1000 sur des assiettes en carton et on avait fait un petit boomerang pour Instagram. C'était assez rigolo, mais c'était fou.
Ah ouais,
mais oui,
chouette.
beaucoup de recherches, beaucoup de conseils, voilà.
Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes sur ta chaîne Les Secrets de Muriel? C'est quoi justement ces vidéos qui ont fait ton succès?
Eh ben, c'est des tutoriels de pâtisserie finalement, alors qu'ils sont incarnés, hein, puisque du coup, au début, on me voyait beaucoup moins, c'était beaucoup de voix off. Et puis je me suis dit finalement, ce que je recherche dans YouTube, c'est aussi la proximité avec l'humain. Et donc si j'incarne pas ma vidéo, ça sert à rien. Donc je donne beaucoup d'astuces, de conseils. En fait, je vais livrer une recette qui n'est, attention, je le répète à chaque fois, mais qui n'est pas un référentiel de CAP pâtissier, puisque forcément je prends des libertés par rapport aux recettes classiques de temps en temps. parce que je veux pas justement me brider. Enfin, c'est ma chaîne, je fais les recettes que je souhaite faire, que je souhaite partager. Donc il y a beaucoup de recettes de pâtisserie, il y a tous les niveaux clairement, et je donne mes astuces, mes conseils, les petites anecdotes et ainsi de suite. Et puis des rencontres aussi avec des producteurs ou la visite par exemple de l'atelier de Buyer qui est une entreprise française de matériel d'ustensiles de pâtisserie et de cuisine qui est génial. J'ai adoré cette visite. C'était mon tout premier vlog d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'est vraiment tout l'univers lié à la pâtisserie, que ce soit des recettes, à la visite d'un producteur, à la connaissance d'un produit. Et j'ai encore plein d'idées, il faut juste que je les mette en œuvre.
Waouh, non, c'est extrêmement inspirant, et en plus je trouve que tu fais une formidable ambassadrice de ton métier, de ton territoire aussi, des personnes que tu rencontres. Donc c'est agréable, et encore une fois, toute cette énergie que tu arrives à nous transmettre rien que par la voix, on la ressent sur YouTube comme on la ressentait en entreprise, donc c'est absolument génial. Je trouve que par ce format-là, pour moi, tu as vraiment trouvé la continuité de ton parcours qui va bien.
Ouais, complètement. Je dis souvent que j'ai créé le métier qui me va, en fait. J'ai créé mon métier de rêve, en fait. Mmh. C'est assez fou, c'est clairement ça.
Ouais, c'est chouette, en passant par toutes les étapes difficiles de la vie de l'entrepreneur. Manger des patates, de pas savoir où on va, d'apprendre un métier de zéro, savoir YouTube, et puisqu'aujourd'hui c'est quand même clairement un métier. C'est assez impressionnant. Enfin, moi je suis passionné d'entrepreneuriat, et ton parcours, je trouve il est très très inspirant. C'est pas du tout la success story qu'on raconte parfois, mais c'est un parcours qui se construit vraiment sur la durée. Et ce qu'on voit bien, c'est que t'es venu quand même capitaliser sur une dizaine d'années de pratiques professionnelles avant de mettre ça finalement en pratique sur les réseaux sociaux, et finalement de te moderniser, de proposer ça d'une nouvelle manière. Donc génial, et bravo pour le parcours jusqu'à maintenant.
Merci, mais je prends tellement de bonheur que ça va.
Et alors, quels sont là les projets que tu développes à côté de la chaîne? Je sais qu'il y a d'autres choses que tu fais. Si tu devais un petit peu nous teaser la suite 2021-2022 de Muriel et ses secrets, qu'est-ce que ce serait?
Bien sûr, en fait j'ai commencé un petit peu, il y a eu un petit échantillon cet hiver, parce que j'ai décidé d'installer ma pâtisserie au Grand Colbert. Donc le Grand Colbert, c'est un restaurant, une belle brasserie parisienne assez mythique, parce qu'elle est... Il y a un décor absolument fabuleux, faut vraiment aller au Grand Colbert parce que il y a une ambiance incroyable. Et les deux gérants, je les ai rencontrés l'année dernière, et en fait ils m'avaient proposé de faire une pâtisserie éphémère dans le restaurant. Malheureusement il y a eu les confinements, et puis finalement on s'est dit bon allez, on y va, on la lance quand même en click and collect, tant pis. Ça a très bien marché. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont proposé que ce soit plus éphémère, en fait, que je pose vraiment mes valises chez eux. Donc, je suis ravie de l'invitation et de la collaboration, parce que c'est quand même un très bel établissement. Et donc, effectivement, je deviens la chef pâtissière du restaurant, puisque je vais réécrire toute la carte des desserts.
Wow.
En gardant cet esprit brasserie parisienne, cet esprit dessert à la française, généreux, mais en ajoutant vraiment cette touche de saison avec des produits bio ou de l'agriculture raisonnée et ainsi de suite, parce que j'attache beaucoup d'importance aux produits, tu le sais. Mmh. Et j'ai des fournisseurs incroyables avec qui j'ai des liens humains incroyables aussi. Et donc, effectivement, j'installe aussi ma vitrine. Donc, ce sera comme une pâtisserie classique. On rentre, on vient acheter un gâteau, on repart avec. Et je vais aussi m'occuper de la carte du salon de thé, et donc probablement les desserts qui seront en boutique seront les desserts du salon de thé.
Génial. Donc aujourd'hui, si on veut te rencontrer, il faut pousser la porte du Grand Colbert pour avoir une chance de te voir dans ta pâtisserie ou dans le salon de thé.
Exactement.
Incroyable. Et alors maintenant, tu redeviens donc chef pâtissière. Tu as du coup une équipe avec toi autour de toi?
Ouais, exactement. J'ai deux jeunes femmes qui sont avec moi, dont une qui travaille au Grand Colbert depuis 5 ans. Et puis, je vais avoir deux apprentis, un garçon et une fille. C'est bien, il fallait quand même un garçon dans l'équipe.
Équilibrer un peu.
C'est ça, exactement. Donc, en mention dessert de restaurant et en mention pâtisserie. Ce qui est génial pour eux, c'est qu'effectivement, la jeune fille, en fait, voulait faire de la pâtisserie boutique. Et à la fois, elle aimait bien la restauration, donc bah là, elle va pouvoir faire les deux. Donc voilà.
Ouais, c'est génial. Alors maintenant qu'on a bien compris tout ton parcours, il est, enfin encore une fois, il est vraiment très très inspirant. Moi, je me demande parce que tu sais que on est sur un podcast autour de l'excellence et de l'excellence de service. Mmh. Je me demande comment est-ce que toi tu arrives à, enfin déjà, quelle est ta vision de l'excellence, comment est-ce que tu l'incarnes et comment est-ce que aujourd'hui tu arrives à la transmettre. Parce que clairement, il suffit de regarder la qualité de ce que tu produis pour comprendre qu'il y a un énorme travail sur ce perfectionnement, sur l'excellence. Voilà. Quelle est ta vision? Comment est-ce que tu l'incarnes? Comment est-ce que tu la transmets?
C'est une question qui est pas simple, je trouve, mais je pense que pour moi, si je devais vraiment le résumer, c'est j'ai envie de faire passer aux gens un moment magique. Un moment magique, ça peut passer par la façon dont on parle, la façon dont on accueille quelqu'un, mais ça passe aussi par l'ambiance, le décor. Il y a plein de choses en fait. Par exemple, sur une vidéo sur YouTube, je vais faire beaucoup de travail en amont pour que la vidéo soit parfaite, pour donner les meilleurs conseils, les meilleures astuces. Mais je vais aussi essayer de mettre un peu le point sur la dégustation, les textures, donner envie, et ainsi de suite. Si je le transcrivais au Grand Colbert, par exemple, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Le premier, ça va être l'accueil. C'est vraiment pour moi une des choses les plus importantes parce que ça va être le contact avec l'humain en fait. Le serveur, le maître d'hôtel, le barman, c'est les interlocuteurs en fait finalement de tout le reste, des employés du Grand Colbert ou d'ailleurs. Parce que c'est eux qui vont faire en sorte de faire passer un bon moment à nos clients. Et après, effectivement, il faut que ce qui soit dans l'assiette soit à la hauteur. J'ai la chance de travailler aujourd'hui avec aux côtés de Fabrice Cornet, qui est un super chef cuisinier, avec qui je m'entends extrêmement bien et on a les mêmes valeurs. Donc il y a ça. Et puis il y a le... Pour moi, c'est très important aussi, c'est vraiment l'ambiance et le décorum, en fait. Je suis encore une grande enfant. Et pour moi, ça a beaucoup d'importance. Moi, je me souviens à Mykonos d'avoir été dans un bel hôtel, un peu excentré. Il était tout blanc, il était magnifique. Et en fait, dès qu'on rentrait dans la chambre, j'avais l'impression d'être ailleurs, quoi. Et c'est ça qui est beau, en fait, je trouve, dans les établissements qui travaillent en fait ce côté-là, qui travaillent toutes. Je sais pas comment expliquer exactement. Ouais, c'est une question d'ambiance. Et puis les petites touches, les petites. Moi, je me souviens, on avait des petits cadeaux tous les soirs dans la chambre. C'est hyper mignon, quoi. Moi, j'étais touchée, quoi. Je trouvais ça hyper chouette. Pourtant, c'était pas grand-chose, quoi. Ça pouvait être des gâteaux, ça pouvait être. Si à la fin, on avait une petite bouteille de champagne, j'avoue, c'était chouette. mais ouais, c'est vraiment tous ces paramètres-là. Et c'est comme une danse, quoi. C'est comme une valse. Il faut être synchro, quoi. Il faut que ça fonctionne ensemble.
Je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir ton point de vue de pâtissière sur l'excellence et l'excellence de service. C'est pour ça que je te posais la question. Tu as touché quelques-unes de mes cordes sensibles. Tu parles d'humain, de l'accueil sur lequel tu mets un point d'honneur. Évidemment que ton produit doit être d'exception et la manière dont tu le transformes aussi. Mais c'est clairement l'humain qui va en faire la promotion, qui va créer cette expérience-là, le lieu sur lequel on se trouve. On parle d'expérientiel, quand on arrive dans un endroit sur lequel il y a une musique, tu parlais du décorum, il peut y avoir une atmosphère olfactive, voilà, tout ça va jouer énormément. Et en fait, c'est ce que j'appelle, c'est finalement ce parcours client qui va laisser une trace un petit peu indélébile. Et ça, je pense que c'est essentiel quand on veut créer une expérience au niveau. Et quand tu racontes ton voyage à Mykonos, c'est aussi ça qu'on ressent là-dedans. C'est que toi, à travers ton parcours client, il y avait des moments clés avec des petites attentions qui ont fait qu'à la fin, tu as un souvenir indélébile de cette expérience.
C'est ça. J'ai cherché le mot, c'était expérience, exactement. T'as tout résumé.
Ouais, trop bien. Je vois très, très bien. Et alors, tu viens de nous envoyer jusqu'à Mykonos, mais si tu nous faisais un petit peu voyager dans le temps maintenant, si tu pouvais peut-être revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment?
Je crois pas grand-chose finalement parce que en fait tout ce que j'ai fait avant, bah ça conditionne la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est pas du tout des paroles toutes faites ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour moi c'est vraiment important. Je réalise que tous les chemins que j'ai croisés, toutes les expériences que j'ai vécues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et ben elles ont vraiment conditionné la personne que je suis mentalement, physiquement, créativement parlant. C'est vraiment ça. Donc je pense que je changerai rien. En plus j'ai une super famille qui est absolument incroyable, donc ça va. J'ai de la chance.
tu vois le côté positif de la chose, en tout cas c'est génial. Ouais. Et, alors, niveau recommandations, maintenant, j'aimerais beaucoup que tu nous partages un livre que tu aimais, que tu recommandes, pâtisserie ou pas forcément d'ailleurs, en tout cas quelque chose qui t'a marqué.
Alors, ça tu me l'avais dit et du coup j'ai cherché un petit peu.
Oui.
Et alors je suis une mauvaise élève parce que j'ai envie de t'emmener ailleurs que vers un livre, est-ce que j'ai le droit ?
Tu m'emmènes où tu veux.
Ok, génial. En fait, moi, je vais t'emmener vers une autrice, compositrice, interprète que j'ai découverte justement quand je me suis lancée dans ma chaîne YouTube et qui m'a complètement accompagnée, qui m'a donné énormément de courage et de force. Beaucoup la connaissent maintenant, mais à l'époque, elle était moins connue. C'est Barbara Pravi.
D'accord.
Barbara Pravi a été deuxième à l'Eurovision de la chanson cette année, qui est une place historique pour la France. Et ses paroles sont absolument incroyables, que ce soit sur son combat féministe ou sur tout simplement l'émotion qu'elle fait passer. Elle a créé un album qui s'appelle Les Prières, par exemple, et je me retrouve complètement dans toutes ses paroles, en fait, parce que souvent, j'ai du mal à mettre réellement des mots sur les émotions qui m'accompagnent, sur ce que je ressens. Et d'ailleurs, quand je crée un dessert, c'est très compliqué d'expliquer pourquoi et comment, parce que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Oui. Et en fait, cette femme-là, elle a fait ressortir tout ça à travers des mots et des mélodies, parce que je suis très... comment on appelle ça, la musique m'accompagne vraiment au quotidien, hein, c'est mon compagnon de chemin constamment.
D'accord.
Et je mets très souvent de la musique, tout le temps.
Ça doit être sympa l'ambiance en pâtisserie chez toi.
Ouais, c'est ça, c'est voilà. Et en fait, elle est féministe, elle est active et elle a fait notamment Ma fille, qui est une reprise de la chanson d'Eddie de Préto, Mon Kid, ouais. Et Note pour trop tard, qui sont des musiques que j'ai écoutées en boucle au début. Quand je devais mener mon projet, porter ma voix et dire je suis chef pâtissière et je suis sur YouTube.
En plus, dans un monde d'hommes très prenant, un peu macho parfois. Waouh.
Wow. Ouais. C'est ça. Et elle m'a donné vraiment, vraiment beaucoup de force. Je la remercie énormément. J'ai déjà eu l'occasion de lui dire par mail. Et d'ailleurs, je lui avais offert une galette des reines. Et vraiment, j'ai eu une émotion absolument incroyable quand elle a remporté l'Eurovision France pour aller concourir à l'étranger, parce que c'était la première fois de ma vie que je soutenais réellement un chanteur ou voilà, j'ai jamais été une groupie, j'ai jamais été fan réellement de quelqu'un de célèbre, et je dirais même pas que je suis fan de Barbara Pravi, mais juste j'ai l'impression que c'est une sœur quoi, et je la remercie vraiment pour ça quoi.
C'est génial. Écoute, je m'attendais pas du tout à ça et à ce genre de référence, mais c'est super, je connaissais pas du tout, donc ça m'a donné très très envie d'aller découvrir. Voilà. Merci pour ce partage. Et est-ce qu'en complément, tu as une citation, un mantra que tu te répètes, que tu utilises, pourquoi pas une phrase, oui, de ta chanteuse préférée, qu'est-ce que ce serait que cette citation?
Alors ça, c'est pas de Barbara Pravi, je crois, mais alors je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est de Claude Lelouch, mais c'est Jeanne Arène, qui est une comédienne et amie que j'aime beaucoup, qui a eu un Molière en 2014, et après une maladie malheureusement très très grave dont elle s'est sortie miraculeusement, qui m'a dit un jour, au début de ma chaîne toujours, « Tu as déjà le nom, va chercher Louis ». Et ça a résonné un milliard de fois dans mon cerveau et dans mon cœur. Et voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose que je me répète très souvent.
Ah, je l'aime beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau partage-là. pendant tout cet échange, tu nous as donné énormément de noms, de références, de mentors, personnes avec qui tu as travaillé. ou avec qui tu as échangé simplement. Ouais. Qui est-ce que toi tu aimerais voir aujourd'hui invité sur Hospitality Insiders?
C'est pas une question simple parce que forcément il y a plein de gens que j'aime.
Et oui,
beaucoup.
T'es pas obligé de choisir quelqu'un que tu as déjà cité, hein, ça peut être un illustre inconnu, quelqu'un important pour toi.
Parce que j'avais marqué Lilian Bonnefoy ou Julien Alvarez, parce que justement je trouve que leur parcours et leur façon de penser est un peu similaire. Mmh. Lilian Bonnefoy, j'en ai très peu parlé, mais c'est aussi quelqu'un que j'apprécie énormément et qui a la même philosophie que Julien Alvarez pour moi. Qui est donc le chef pâtissier du Capitaine Rock à Antibes.
Oui.
Et qui est resté très longtemps et qui est d'ailleurs encore le chef pâtissier du Capitaine Rock et qui a créé sa boutique de pâtisserie aujourd'hui. Je pense que ça peut être intéressant alors c'est un pâtissier aussi du coup. Mm-hmm. Et je pense que ça peut être intéressant de parler avec lui. Il est vraiment très intéressant.
Partager sa vision, connaissant Julien Alvarez, s'il est au même niveau de qualité d'échange, ça ne peut être que riche, j'en suis sûr.
Après, si je sais pas si ça peut rentrer dedans ou pas, mais je pense que ça peut être aussi. C'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup discuter aussi. Je suis désolée, j'en prends deux.
Oui, mais vas-y.
Décidément une mauvaise élève.
Il y a pas de restriction absolue.
J'ai eu un coup de cœur. Amical pour Alain Poulon, qui est mon agrumiculteur, donc mon fournisseur d'agrumes de Menton, et qui a une vie assez incroyable aussi, parce que c'est un intellectuel paysan. J'en dirai pas plus parce que c'est lui qui dit ça, et je le trouve assez passionnant. Voilà.
Génial. Ah ben je prendrai cette référence avec plaisir aussi, et pourquoi pas un jour avoir la chance de pouvoir l'interviewer.
Oui.
Et alors, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un message à faire passer aux insiders, qui sont donc les auditeurs du podcast, qu'est-ce que ce serait ?
Ce serait n'ayez pas peur et foncez.
Un beau message entrepreneurial. Merci beaucoup pour tout ça, Muriel. Comment est-ce que, si on veut continuer l'échange avec toi, comment est-ce que on peut te contacter ? Quel est le meilleur moyen ?
Alors, il y a mon site internet, lessecretsdemuriel.com. Sur Instagram, le plus souvent, je suis un peu plus active sur Instagram. Donc là, si on tape Les Secrets de Muriel, on me trouve. Mais sinon, c'est Muriel_Aublet_Cuvelier, donc mon nom de famille. Il y a mon petit logo avec la femme qui dit chute.
Oui, j'aime beaucoup le logo d'ailleurs.
C'est ça. Et puis forcément, je suis présente sur YouTube, hein, donc c'est Les Secrets de Muriel toujours. Et s'il y a des questions, c'est bien de les poser en commentaire sous la vidéo, parce que j'ai des notifications, donc je peux y répondre assez facilement. Mm-hmm. Et puis, sinon au Grand Colbert, hein, mais ça dépend si je suis au laboratoire en haut.
Ouais. Voilà. Ça fait déjà quelques bons moyens pour échanger avec toi et te rencontrer. Écoute, je te souhaite vraiment tout le meilleur dans l'évolution de ton parcours. Moi, je vais suivre ça très attentivement. Je le fais déjà depuis quelques années. Et merci encore d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders. À très bientôt, Muriel.
Merci beaucoup à toi, Maxime. C'était un plaisir.
Chers insiders, quelle belle découverte du monde de la pâtisserie, à travers Muriel et ses secrets. Vous repartez peut-être comme moi, avec les papilles et le cerveau tout émoustillé. Maintenant, c'est à vous. Ma chaîne YouTube est loin d'avoir le succès de celle de Muriel, mais vous pouvez également y retrouver mes épisodes. Surtout, si vous souhaitez m'aider et me donner de la visibilité, rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser une note ainsi qu'un commentaire. C'est le meilleur moyen de me faire connaître et de faire grandir notre communauté d'insiders. Et si vous ne souhaitez rater aucune actualité, rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.